Alors, salut Jack, on est tout simplement le 9 juin 2020, on en est au deuxième match de la saison 50 de Buzzer Beater. Et bah, ça me fait super plaisir de prendre le temps de discuter avec toi pour bah, en fait, ce qui est la première formule interview de Buzzer Beater News Audio. Et bah, ce pourquoi je t'avais proposé une interview, c'est pour deux choses. C'est évidemment bah, le fait que tu sois désormais le nouveau vainqueur de la Coupe en titre de France. Et que qui plus est, ça fait 10 ans que tu joues, depuis 2 mois, ça fait 10 ans déjà. Et
C'est
c'est ton
ça.
premier titre.
Oui, c'est mon premier titre, un titre qui a été longtemps attendu. Bah, déjà, tout d'abord, salut, merci pour l'invitation. Franchement, c'est un honneur d'être invité sur BN Audio. Et oui, ça fait 10 ans maintenant, 10 ans que je joue.
Donc du
Sacré
coup,
temps.
on va prendre le temps un petit peu justement de parler de ton parcours. On va peut-être garder justement la coupe un petit peu pour la fin et remonter un petit peu en arrière.
Pas de
Donc toi, tu as
problème.
commencé le 1er avril 2010 par un
Ouais,
match de
hein.
coupe, un match de
Ouais.
coupe en plus, que tu as
Ouais.
perdu d'un seul point. C'était en
Ouais, je me
saison 2.
rappelle encore. Et je
Ouais.
me rappelle encore, en fait, on a un ami qui a découvert le jeu. Et moi, j'étais en coloc avec le général à l'époque. Et puis, il arrive, il nous dit, ah, j'ai un jeu à vous montrer, etc. Donc, il nous fait découvrir Buzzer Beater. J'étais assez attiré par le jeu, mais je me suis pas inscrit tout de suite. Le général a fait son équipe et je l'ai rejoint peut-être 2 semaines après. Et donc, quand je m'inscris sur, c'était un jeudi, je m'inscris sur Buzzer Beater. Et une fois que mon équipe est créée, j'ai 15 minutes, je crois, grosso modo, pour faire mon équipe pour le premier match de coupe. Donc, le temps de parcourir un peu mon effectif, de regarder un peu tout ce qui se passe, je valide. Et non, ça n'a pas été validé. Donc, j'ai joué en compo automatique et ça m'a donné un premier match que j'ai regardé en coupe contre un bot. Moi, je le jouais en mode bot, hein, finalement, puisque j'étais en compo automatique. Et ça a été un match de folie, 122 à 120. Je le perds au buzzer. C'était fou. Et j'ai déjà vibré sur ce premier match. Et ça y est, j'étais piqué, quoi, en fait.
Ouais, il
Donc.
faut dire que tu as bien commencé parce que en plus tu avais un noté en plus dans ce match-là. Donc tu avais vraiment tous les ingrédients possibles dès le départ, quoi.
J'avais un noté, comment ça?
Un overtime,
Ah
c'est
oui, non, oui, t'as raison, oui. Oui, ça a été prolongation, oui, c'est ça. Je me rappelais que ça avait été très serré, que je perdais le match. Enfin, au buzzer ou dans les dernières secondes, mais oui, je me rappelais plus qu'il y avait un overtime. Oui, ça a été un match de fou. Ouais, ouais c'est marrant.
Donc ça, c'était les débuts. Tu as commencé, il faut le dire, à une période que tout le monde n'a pas connue. C'est d'ailleurs que tu as commencé en période à l'époque où les D5 existaient. Bon, évidemment, comme tout le monde à l'époque, t'es pas resté longtemps en D5 parce que tu devais être l'un des seuls joueurs humains, tout simplement.
Non, il y avait quelques joueurs humains avec moi. Hein. Quand je suis arrivé, ma Ligue 5, finalement, je crois qu'il y avait plus de joueurs humains que de bots.
Ah, quand même.
Ou c'était moite-moite, mais non, il y avait même plus de joueurs humains que de bots parce que je crois que ça se battait pour accéder aux playoffs, tu vois. Non, c'était déjà une ligue qui valait le coup d'être jouée finalement dès le début. À cette époque-là, c'était un peu le boom sur bébé. Enfin, le boom où c'était la période dorée, on va dire, où il y avait encore beaucoup beaucoup de joueurs.
Ouais, et
Et
d'ailleurs, je suis en train de regarder. Si on la saison 12, on va la saison 12, bon, c'était la toute première.
c'est ça.
Mais si on regarde la saison 13, parmi les joueurs qui étaient là, il n'y a qu'une seule autre équipe qui joue toujours et qui est en D2. Si on regarde la saison 12, c'est pareil, il y a une seule équipe qui est toujours là et elle est aussi en D2. Comme quoi, tu as débarqué dans une des cinq où bah, les 2 premières saisons, ouais, il y avait du monde, mais par rapport aux survivants, on peut voir qu'il y a donc eu une des deux et puis bah, quelqu'un qui est en Pro A, c'est-à-dire toi.
Et c'est qui l'autre équipe qui reste?
Alors, en saison 12, l'équipe s'appelle Coulomb City et elle s'est renommée Los Gapachos. Le manager, c'est Dr. No.
D'accord.
Et alors, la saison 13, je vais te la trouver, la Team Bouddha.
D'accord, ok, bon. me rappelle
Ah bah
pas
en
de
fait
ses acteurs.
c'est la même équipe mais qui aime bien changer de nom en fait.
D'accord, ok. J'ai des fins.
Et voilà, tu as un ancien qui est toujours là et qui s'appelle donc Docteur No, il joue en 2-2.
Eh ben, on le salue, hein, on le salue.
On le salue et puis on salue aussi le général que tu as cité. Moi, ça faisait
Ouais.
plusieurs années que j'avais pas entendu parler de lui et puis il est repassé sur la chatbox BBF la semaine dernière. Ça m'a bien fait plaisir de lui reparler, donc bah, coucou à lui.
Je l'ai eu au téléphone justement aujourd'hui ou hier. C'était hier, il m'a parlé qu'il était repassé sur BBF. Il était fait un peu chambré et tout. Le pauvre, il est en D2 là. Il doit avoir 4 trophées de finale de suite. Il galère, il galère et à chaque fois, il passe pas loin. C'est assez dur des fois moralement pour lui.
Ouais, j'imagine. J'imagine le plus dur, pour moi, le plus dur, c'était déjà le cas il y a 10 ans, je pense. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense que le plus dur, c'est l'antichambre de la D2 par rapport à la Pro A. Parce que le niveau, il est quasiment Pro A
Élevé,
ou
ouais.
Pro A. Et du coup, pour réussir, en fait, il faut vraiment calculer son coup à l'avance. Et on
Ouais,
va en reparler, justement, quoi. Ouais.
c'est assez vrai. Après, moi, personnellement, je l'ai jamais ressenti personnellement parce que j'ai toujours eu une stratégie de préparer mes équipes en Ligue 3. Enfin, je peux pas dire que c'est une stratégie. Ça, pour ma première accession en Pro A, ça s'est fait comme ça. Je suis resté très longtemps dans une Ligue 3 qui était assez compétitive, qui est la Ligue 3.14,
Oui.
où ça bataillait, où j'ai bataillé pendant une dizaine de saisons là-haut. Et la deuxième fois, quand je suis redescendu de Pro A et je me suis remis en Ligue 3, je suis passé par la D2 juste une saison pour redescendre et j'ai reconstruit à partir de la Ligue 3. Ce qui fait que en passant un peu de temps en Ligue 3, j'arrive en D2 à chaque fois, les deux fois, étant assez près et finalement je monte en 2 ou 3 saisons à chaque fois.
Ouais, le plus dur pour toi, ça a été la D3 vraiment, parce que tu y restais, je regarde de
Ouais.
la saison 18 jusqu'à la saison 26, 8 saisons, voire 9,
C'est ça.
mine de rien, mais tu as eu le temps de te préparer. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens un peu des autres managers qui t'ont marqué dans cette division qui est en effet assez mythique?
Bah, oui, je me rappelle très bien de ECL, mince, je sais plus, attends, je vais.
ECL,
Ouais, qui joue encore normalement,
ETN? Ouais.
qui est resté dans cette Ligue 3.14, mais une éternité, je regardais encore de temps en temps. Et,
Ouais, le manager, c'est Capello 13, ouais.
ouais, Capello 13, ouais, c'est ça, ouais, qui était plutôt sympa et ça a animé un peu le forum et tout, c'était une ligue qui était super sympa. Et oui, je me rappelle. Là, je le vois, il est en 3.1. Et si je regarde son historique de club, il a dû rester en 3.14, mais de la saison 15 à la saison 38.
Ah ouais.
Donc 23 saisons en Ligue 3 pour finalement réussir à être couronné champion. Et oui, je me rappelle bien de lui. Après, il faudrait que je reprenne. Attends, je vais reprendre la saison 3.14 quand j'y étais.
Bon, il y avait le général aussi. Sinon, peut-être que tu te souviens de Miller. Il y avait aussi Serial
Oui,
Teacher, Soleil Boys.
comment tu dis?
Serial Teacher, l'équipe s'appelle Soleil Boys.
Ah non, je me souviens pas.
Ouais, il
Enfin, je
était
vois
recruté.
qu'il était là.
Ouais.
Il y avait les Pacers de Nantes aussi. Je me rappelle d'avoir joué plus longtemps avec eux.
T'as joué
Et
contre Miller, ouais, c'est ça, voilà, le manager, c'est Miller.
c'est
Et t'avais
Miller, ouais.
aussi l'UJAP Quimper avec Sellerman.
Ouais. Je l'appelle l'UJAP. Et oui, je me rappelle. Et Wimaolka aussi. Qui est toujours sur BB d'ailleurs. Wimaolka, le manager, c'est Wimaol. Il me semble qu'il est
Il
Vosgien,
doit
donc
aussi
pas
en
très
plus.
loin de là où j'habite.
Ouais, il a longtemps été en D2, il est descendu en D3.
Et je me rappelle aussi qu'en Ligue 5, j'ai été avec Indian Pacers, les Indian Pacers, ils sont plus sur le jeu, enfin le manager n'est plus sur le jeu, mais qui est resté longtemps. Et donc on était assez. On a eu quelques matchs d'anthologie tous les deux. Et après, quand je suis monté en Ligue 4, il m'a suivi. Et quand j'étais prêt à monter en Ligue 3, donc je fais une deuxième finale en Ligue 4, je tombe contre lui, je pense pouvoir passer. Et finalement, il me coupe l'herbe sous le pied en me blessant un joueur dans le troisième match. Voilà, c'est des souvenirs que j'ai encore, ça.
Mais c'était... Ouais, le sel sur la blessure, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est toujours un peu rageant. Hein. Ça fait partie des trucs qui sont assez durs parfois dans bébé, c'est les blessures et les doubles downs. Les doubles downs aussi des vieux, ça, je trouve ça intolérable. Déjà, un seul down, c'est déjà suffisant. Mais quand c'est des doubles sur la même carac, d'un coup, c'est horrible, je trouve.
Ah, sur la même carac, ouais, c'est quand ça arrive, ça fait mal. Ça, c'est
ouais,
rare,
ça fait mal.
Malheureusement. Mais... Et sinon, on va parler quand même d'une saison, à mon avis, qui doit te tenir plutôt à cœur. C'est la fameuse saison 26 où tu deviens champion de 3-14.
Ouais, bah c'était le moment. C'était le moment. J'étais prêt en fait. J'étais prêt à monter. Souvent en fait, j'ai décidé des moments où je voulais monter, où je tentais le shot et je mettais toutes mes chances de mon côté pour monter en fait. C'est souvent en suivant les cycles de formation. Hein, de toute façon, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est former les joueurs et quand ils sont prêts à jouer sur l'étage à l'étage supérieur et que leur salaire risque d'être intenable pour la ligue où on est actuellement, c'est ce moment-là où il faut mettre le coup de collier pour pouvoir monter. Après, c'est pas toujours simple hein, parce qu'il y a aussi d'autres managers qui sont là pour qui ont des objectifs aussi qui sont pas concurrence les tiens. Du coup, il faut réussir à faire ça et c'est pas toujours facile. Mais c'est comme ça que j'ai fait, ouais. Et oui, j'étais content. J'étais content, mais je sentais que mon équipe était prête en fait. C'était
ouais, cette saison-là, t'avais mis les choses au clair déjà en saison régulière parce que tu finis avec un bilan de 21 victoires.
Ouais,
le
c'est
deuxième
ça.
Dans ta conf était à 15 victoires, donc tu lui as mis 6. Et bon, alors la différence, t'es à plus 733, lui il est à 195. Et puis, ton adversaire, du coup, en finale de PO, ce sera justement, on en a parlé il y a 2 minutes, c'est l'UJAP. C'est Sellerman, mais
Ouais.
Tu réussis clairement à te montrer meilleur puisque tu arrives à le battre en 2 manches.
Oui, je il me semble pas. Enfin, j'étais sur cette saison-là, je dominais la ligue en fait, vraiment en fait. J'avais pas trop de ah, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur de pas passer, de pas réussir mon objectif, mais de mon souvenir. Il y avait pas photo en fait, j'étais au-dessus. La seule défaite, je m'en rappelle encore de cette défaite là parce que je voulais faire 22-0. C'était contre CL justement, un match où il me blesse un joueur et j'avais râlé sur le forum avec le sourire hein, c'était de bonne guerre mais je m'en rappelle.
Ouais, sourire rire jaune quoi.
Non, ouais, un peu toujours
un jeu mais
façon,
oui. Ouais, non mais c'est toujours mieux que le trash talk un peu ridicule qu'on peut avoir par moment. Vaut mieux en rire.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Après, même le trash talk, je pense qu'il faut le prendre
avec
une distance, parce que même quand ça trash talk, ça reste qu'un jeu. Après, c'est vrai que c'est facile à dire comme ça à froid, mais c'est un jeu. Quand on est à jouer, quand ça fait 10 ans qu'on joue dessus, malgré tout, on a certaines attentes. Et quand ces attentes sont déçues, des fois, c'est quand même très décevant. Hein. Il faut pas se le cacher. Quand j'ai raté le titre l'année dernière, j'étais bien déçu hein, quand même. J'étais vraiment dégoûté.
Ouais, j'imagine.
Mais bon, on va pas faire une dépression pour ça non plus. Hein. Ça dure 2-3 jours. On nourrit des regrets et puis après, on passe à la saison suivante, quoi.
Ouais. D'ailleurs, par rapport à cette saison et à cette montée en D2, est-ce que tu te souviens de certains justement de tes joueurs de l'époque? Certains peut-être déformés, est-ce qu'ils sont allés au Hall of Fame?
Oui, j'ai un Hall of Fame qui est fourni et oui, je m'en souviens, je me rappelle de mon AF italien, il me semble qu'il jouait à cette époque-là, Corrado Azzoni. Je me rappelle parce que quand je l'ai recruté, il m'a fait passer un cap supérieur, dans mon niveau. Je l'ai ressenti parce qu'on jouait une ligue privée aussi entre Nancéens. Et je t'entendais parler de mafia Nancéenne dans le BN Audio numéro 3. Et c'est vrai parce qu'on
fait partie d'une mafia de toute manière, on peut le dire.
Ouais, on a débarqué, on était 8 ou 9 à un moment donné, de potes de Nancy qui jouaient au jeu. On s'est refilé le virus un petit peu. Là, aujourd'hui, il reste Big B qui est en Pro A avec moi.
Ouais.
Ensuite, tu as Jean-Zergue Monchaud, qui est le manager des Nancy Zerglings, qui est en 3.14. Donc, il y a
Ouais.
mon ancienne ligue. Il y a le général, bien sûr, et le Tchèque. Alors, le Tchèque qui a quitté le jeu pendant quelques saisons pour finalement revenir il y a 4-5 saisons. C'est le manager des Suns of Dubaï qui est en 3.11 aujourd'hui. Et voilà, on est toujours accroché au jeu, quoi.
Ah, c'est bien. Vous avez l'occasion de vous voir
D'ailleurs.
de temps en temps encore IRL?
Je vois régulièrement le général. Anser Monchaune, qui est bon donc qui est le manager des Nancy Zergling. Je le vois de temps en temps aussi, mais moins souvent parce qu'il a déménagé, il habite vers Amiens maintenant. Et le Tchèque, je le vois plus beaucoup. Et Bigby, je le vois de temps en temps aussi. Il habite pas loin de chez le général.
Ok. Pour revenir à Corrado
Ouais.
Hadzioni, bah j'ai son profil d'ailleurs là sous les yeux. Sur
Ouais.
sa page Holofame, tu peux voir son meilleur profil lorsqu'il était
Ouais.
dans l'équipe.
Oui.
C'est la première fois d'ailleurs que je m'intéresse à cette fonctionnalité. Et c'est assez intéressant, on voit qu'on parle quand même d'un joueur qui a évolué dans les années IRL 2010 à 2013. Donc on était plus au début de bébé qu'à la deuxième moitié, on va dire, de la vie du jeu. Et pourtant, déjà pour l'époque, bah mine de rien, c'est un profil qui a des secondaires, quoi.
Un petit peu, mais j'ai toujours, dès le début, en fait, j'ai recherché des joueurs qui n'étaient pas à la rue avec les secondaires. Sans savoir, enfin, en pressentant, en fait, que c'était important, finalement. Et parce que je sais pas comment marche l'algorithme. Je sais pas s'il y a des gens qui ont plus d'informations sur l'algorithme, etc. Et j'imagine qu'il y a des phénomènes de synergie qui doivent se passer.
Oui, on sait qu'il y a des caractéristiques qui sont liées les unes avec les autres,
C'est ça, c'est ça.
notamment il y a la position du joueur, il y a la tactique, enfin il y a plusieurs paramètres à la fois en tout cas.
C'est ça, ouais. Et du coup, ouais, j'ai toujours cherché. Et puis, je trouvais ça plus plaisant. Je sais pas. Je crois que aussi, personnellement, les joueurs que j'aime sont des joueurs qui savent un peu tout faire. Je me rappelle à Nancy, au SLUC Nancy, donc l'équipe professionnelle. Il y a un joueur qui a beaucoup marqué le SLUC, qui est Tariq Kirkse, qui est un ailier à tout faire, qui mène la balle et qui joue dessous en même temps, et qui était un joueur très sympathique, assez talentueux, avec un style très particulier et qui a beaucoup apporté au SLUC. Du coup, oui, je crois que ça correspondait bien à ce que j'aimais dans le basket en fait.
Ouais.
Donc voilà, oui, Corrado Hadzioni qui avait déjà un petit médiocre en défense extérieure et un petit mauvais en passe. Même s'ils étaient peintures, il n'était pas trop trop bas encore.
Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, de cette époque, tu as gardé encore certains joueurs qui sont toujours dans ton équipe. On peut dire que
Alors
les anciens, tu aimes les conserver. Je
oui.
pense à Nicolas Désert, à Lech Krasovski.
Ouais, non, mais j'ai ce. Je sais pas si c'est un défaut, mais j'ai ce côté où je m'attache un peu à mes joueurs. Et Nicolas Désert, c'est un joueur qui était présent dans mon équipe de base. C'est le seul que j'ai gardé pour le former un peu. Alors, je sais pas si c'était une bonne idée parce qu'il était titulaire, je crois, et il avait déjà 23 ans. Mais il avait déjà un niveau qui était moins mauvais que les autres. Je l'ai formé. Ça a été mon meneur pendant la Ligue 5 jusque milieu de Ligue 4 où il a fallu switcher. Et Lech Krasovski, c'est mon premier renfort d'un jeune que j'ai voulu former et que j'ai formé jusqu'au bout, au mieux. Donc c'est pas un gros tueur, mais comme tu vois, ma formation, j'ai cherché à en faire un AS complet, entre guillemets, quoi.
Ouais, tout à fait. Bah, mine de rien, Krasovski a joué 400 matchs avec toi
Ouais.
et sur un total de 1300 matchs joués depuis tes débuts. C'est quand même
Ah ouais.
énorme.
Ouais, c'est énorme, mais c'est parce que je le fais jouer encore de temps en temps.
Ouais.
Mais pas vraiment en match officiel. Oui, j'ai quelques joueurs comme ça qui sont à très faible salaire, qui me servent de bouche-trou sur certains matchs pour faire les minutes. Donc je continue à faire augmenter son nombre de matchs, même si c'est assez rare quand même.
Ouais. On peut passer à la saison suivante parce qu'il y a un fait intéressant, c'est-à-dire qu'à peine tu es en D2, donc tu arrives en 2-3, et bah tu mine de rien, tu as déjà un joli parcours en Coupe de France, puisque tu atteins le
Ouais.
8e de finale.
Oui, et enfin, ça fait partie des choses dont je suis le plus fier dans ABB. Bon, maintenant c'est la Coupe de France, mais j'avais fait des beaux parcours en Coupe de France, effectivement. À partir de la Ligue 2, je crois que j'atteins une demi-finale, si je dis pas de bêtises. Il faut que je regarde un peu mon historique. Donc oui, saison 28, j'atteins la demi-finale de Coupe de France tout en étant en Ligue 2 et j'avoue que j'étais assez fier de ça. J'ai toujours joué la Coupe. Enfin, j'ai souvent essayé de jouer la Coupe le plus possible, hein, tout en essayant de jouer le championnat en même temps, du mieux possible. Donc des fois, il faut faire des choix aussi, mais donc je suis assez fier de cette demi-finale en saison 28. La Coupe de France. Et ce que je suis assez fier aussi, c'est que quand je suis retourné en Ligue 3, généralement, je fais des bons parcours en Coupe quand je suis prêt à monter, en fait, parce que mon équipe est assez compétitive. Et donc, quand je suis retourné en Ligue 3, donc en saison 44, à la fin de ma deuxième participation à une Ligue 3, j'atteins les quarts de finale d'une Coupe de France, tout en étant couronné champion de la Ligue 3.
Ouais, t'as
Donc,
réussi à mener les deux de front, et ça, c'est peut-être ça le plus difficile, en fait. C'est de
c'est
mener
ça, ouais.
évidemment, deux compétitions à la fois, quoi.
C'est ça. Et ça fait partie de mes petites fiertés personnelles dans BB, quoi. Et puis atteindre les quarts de finale en tant que Ligue 3, bon, bah, je suis pas unique, hein. Il y en a encore de temps en temps, même assez régulièrement, qui le font, mais c'est toujours une vraie satisfaction, quoi.
Ouais, et puis c'est toujours sympa de faire tomber les plus gros que soi, ça, il faut le dire.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Et puis bon, ouais, donc pour revenir sur la 27, c'était face à CB Camp, c'était de 6 points. Donc le manager s'appelle Gitan, il est en D2 aujourd'hui. Et puis pour la saison 28, tu perds face à l'ES Arnaud, qui s'est tuck, et il joue en 2-3 aussi.
Ouais, qui est ES Arnaud au top, qui était encore en proie la saison dernière et que j'ai relais fait. Enfin, je suis tombé contre lui en match de relégation et je l'ai fait redescendre. Désolé, Toc, mais je voulais rester en proie.
C'est le
J'espère
jeu.
que tu m'en veux pas trop.
Finalement, d'ailleurs, maintenant qu'on parle de la D2, on ne peut pas dire que tu y seras resté très longtemps.
Non, ouais.
Puisque.
J'ai.
Ouais, je t'en prie.
Oui, c'est ce que je disais un petit peu en début d'interview. L'antichambre de la proie, donc les Ligues 2, c'est très compétitif et c'est assez difficile des fois de sortir du panier de crabe. Mais j'ai toujours réussi à m'en sortir assez rapidement. Et je pense que c'est intéressant de s'en sortir rapidement parce que quand on commence à stagner un petit peu en Ligue 2, comme le général, et ben finalement c'est plus difficile de maintenir son équipe compétitive, de faire du bénéfice et d'essayer de progresser. Donc ouais, ça s'est bien passé pour moi à chaque fois. Je crois que c'est en 3 saisons la première fois et en 2 saisons ou 3 à chaque fois. Il faudrait que je regarde plus précisément, mais la première fois, je passe, oui, voilà, 3 saisons en Ligue 3 et la deuxième fois, quand je décide de réimpulser une remontée, je n'y passe que 2 saisons. Il y avait une fenêtre de tir à ce moment-là, je l'ai saisie parce que c'était une Ligue 2, donc où il y avait le général qui était. Bon, je connaissais ses plans, hein, parce qu'on discute. Je tiens à préciser, d'ailleurs, je fais encore une parenthèse, je tiens à préciser que tous les Nancéens jouent, hein. Il n'y a jamais eu de passe droit ou de match arrangé. On a tendance à aimer se battre les uns les
C'est
autres.
cogné, c'est gratigné, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Après, cela dit, si on se retrouve dans la même ligue, en Ligue 2, avec le général, quand je jouais le titre, il me laissait la place plus ou moins. Tu vois, on joue pas la même saison, la montée pour s'écharper, quoi. Mais
Ouais,
c'est
après, vous n'étiez pas forcément au même rythme non plus.
ça,
Ouais,
ouais. Il y
ça
avait
va
un
aussi beaucoup.
petit décalage
Parce que
niveau
tu dis,
des formations.
bon, quand on peut, vaut mieux pas trop tergiverser en 2-2 et puis monter, mais il suffit pas de le dire. Donc,
Non, non, tout
forcément,
à
je vais te
fait.
poser la question, c'était quoi la recette? C'était le fait que tu avais un effectif, notamment des formés qui étaient de la même génération et que tu as pu
C'est
faire
ça.
progresser de la fin de la D3 jusqu'à la montée en Pro A.
C'est
Est-ce que c'est
ça.
parce que justement, évidemment pris le temps aussi en Détroit de monter ton économie, ta salle. Enfin, c'était quoi les astuces?
Bah, c'est un peu tout ça. Je pense pas qu'il y ait de recette magique, mais effectivement, mais j'ai des équipes que je travaille sur le long terme, que je chamboule pas d'une année sur l'autre, à part quand je suis redescendu de proie, quoi, où il a fallu faire des gros changements. Et j'essaye de faire progresser le niveau de l'équipe progressivement. C'est-à-dire qu'en restant sur une base de joueurs que tu connais, quand tu fais un ajout, tu sais que tu pars de la même base plus un joueur qui est meilleur que celui d'avant. Donc c'est ça. Si tu regardes bien de toute façon sur mon historique, j'ai des progressions qui sont très linéaires. Alors peut-être un peu plus lentes que certaines équipes qui vont tenter des coups, qui vont tanker pour accumuler de l'argent, etc. Ce qui est une stratégie différente et qui est peut-être qui est aussi intéressante, hein, qui est pas forcément meilleure que la. Enfin, ma stratégie n'est pas forcément la meilleure, mais j'ai des montées linéaires, c'est-à-dire que je suis parti de Ligue 5, je grind la Ligue 4. Ensuite, la Ligue 3 où je suis, j'y reste pendant pas mal de temps pour essayer de construire mon équipe. Une fois que mon équipe est prête, je passe en Ligue 2 et pour accéder en Pro A. Il n'y a pas de montée, descente dans mon parcours en fait. Et une fois que je suis en Pro A, j'y reste le plus longtemps possible jusqu'à ce que je ne puisse plus et puis je réimpulse un nouveau cycle.
Est-ce que dans tes cycles, tu as un petit peu tout vu côté formation, ou est-ce que tu as eu des secteurs privilégiés?
C'est-à-dire, c'est au niveau poste?
Ouais, est-ce que tu es allé, t'as fait que de l'inté, t'as fait que de l'exté, t'as varié?
Bah,
C'est quoi un peu le.
quand j'ai un cycle inté, j'entraîne de l'inté, et quand j'ai un cycle exté, j'entraîne de l'exté, sachant que généralement j'aime bien passer mes joueurs intés à l'exté en premier, hein, comme beaucoup de managers le font aujourd'hui, et ce qui est la norme finalement, pour travailler les secondaires avant que le salaire soit trop lourd et que ce soit compliqué de le faire. Et du coup, c'est possible que parfois. En fait, oui, pour répondre à ta question plus précisément, j'ai formé des extés et des intés. Oui, j'ai fait les deux. Et ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de. Quand j'avais un joueur, quand j'étais à l'exté, par exemple, et que je finissais mon cycle, bah, j'intégrais peut-être un ou deux joueurs intés pour les préparer. Pour les préparer sur leur secondaire avant de passer à l'intérieur, quoi.
Ok, on revient sur les compétitions. Donc
Ouais.
du coup, nous voici en saison 30. Ta première saison en Pro A, t'atteins directement les demi-finales des PO. C'est quoi ton souvenir de cette première expérience du plus haut niveau?
Bah déjà, j'étais très très content d'accéder à la Pro A. Chez les Nancéens, je suis pas le premier parce que le Tchèque, donc qui est le manager de Son of Anarchy aujourd'hui, était monté avant moi. Il est resté une ou deux saisons. Moi, je l'ai rejoint et j'ai réussi à m'y maintenir un peu plus longtemps. Et il avait commencé le jeu après nous. C'était parmi les derniers à commencer le jeu. Puis ensuite, et c'est lui qui était monté le premier en Pro A. Et mon souvenir, c'est que j'arrive en Pro A en me disant, comme n'importe quelle équipe qui arrive en Pro A, il faut que je me maintienne en fait. Hein. Je veux me maintenir. Et je suis tombé du bon côté. Je suis tombé une saison où dans la conférence bleue, où il y avait la place pour se maintenir assez facilement par rapport à l'autre conférence qui était un peu plus relevée. Et donc, je suis arrivé en Pro A et je me suis un, j'ai recruté. J'ai recruté des très forts joueurs qui étaient un peu plus vieux. Le marché était peut-être clément à ce moment-là parce que je me rappelle, un an, je les avais payés assez cher. Il y en avait un que j'avais payé 4 millions. Et donc, je me suis maintenu relativement facilement parce que j'avais monté une équipe qui était relativement forte à ce moment-là. Tout en ayant du mal à me situer par rapport à mes adversaires au départ quand j'arrive. Donc, j'avais vu un peu large en fait finalement. Et c'est une équipe que j'ai pu garder qui m'a permis de rester d'être assez compétitif en Pro A. De toute façon, j'ai toujours été assez. J'ai souvent accédé aux playoffs et qui m'a permis de faire mon. mon petit parcours de 8 saisons en Pro A, à ma première accession.
Ouais, mis à part la dernière saison, évidemment, où tu as été relégué, tu as toujours participé aux playoffs, sauf une fois où tu as fait 5e.
Ouais, c'est ça. Et quand je fais 5e, à ce moment-là, je crois que j'avais choisi de plus ou moins de le faire. Entre guillemets, disons que j'avais la possibilité d'atteindre la 4e place, mais la 5e place m'était plus intéressante financièrement à ce moment-là, je crois. Ouais. Et du coup, j'avais décidé de la prendre, quoi.
Alors, pour la petite anecdote, justement, cette fameuse première saison 30 en Pro A, tu es battu en demi-finale par une certaine équipe qui s'appelle Timo Boys,
ouais.
qui va devenir champion de Pro A. Et nous, maintenant, aujourd'hui, on est au début de la saison 50, et bon, évidemment, on va reparler de cette finale avec de la saison 49 tout à l'heure. Mais en attendant, on va redérouler un petit peu la suite des événements. Du coup, tu redescends, tu découvres la 2-2, mais alors ça dure qu'une seule. Ça dure pas bien longtemps parce que tu continues à redescendre tout simplement. Tu rejoins la 3-12 et la 3-12, en fait, tu vas y rester un petit moment, mine de rien.
C'est ça, c'est je tanque à ce moment-là quand je. En fait, à la fin de mon parcours en Pro A, je me rends compte que j'ai fait quelques mauvais choix de recrutement. Des joueurs que j'ai essayé de faire progresser en post-formation en m'y prenant assez mal. Notamment un joueur, je me rappelle avoir recruté un joueur qui était déjà assez complet et je voulais lui donner une dimension supérieur à l'extérieur pour en faire un joli arrière avec du SI et de la DI. Mais je fais de la formation en biposte, il était grand, je me suis arraché les cheveux dessus, il prenait pas ses up de défense extérieure. Et donc je me rends compte que mon équipe vieillit parce que la première fois que j'accède en Pro A, je suis pas immensément riche, donc j'opte sur plutôt des joueurs assez vieux pour les payer un peu moins cher. Et au bout d'un moment, je me résigne à redescendre parce que soit je continue à dépenser de l'argent à fond perdu quelque part, soit je capitalise un petit peu ce que j'ai fait, je revends les joueurs qui ont encore de la valeur et je repars vers le bas, mais au moins en ayant un petit capital.
Alors donc on peut dire que j'ai fait. Ouais, on peut dire que ça a été un peu ta traversée du désert durant ton long parcours. Est-ce que il y a un moment où tu t'es dit non mais c'est plus possible, je reviendrai jamais en Pro A?
Non, je veux pas paraître présomptueux non plus, mais parce que j'étais pas sûr de remonter en Pro A, mais ça a été mon objectif. Mon objectif, c'est de gagner des titres. Quand j'ai goûté à la Pro A, de toute façon, quand on arrive en Pro A, le jeu, il prend une saveur différente encore. Il était déjà super intéressant, mais le fait de pouvoir jouer la coupe, de pouvoir avoir les titres qui nous tendent les bras, mais qui sont accessibles, c'est quelque chose qui rend le jeu encore plus plaisant à jouer. Hein. Moi, quand je suis arrivé en Pro A, j'ai trouvé ça encore meilleur, quoi. C'était encore, ouais. Et du coup, quand je redescends avec la ferme intention de remonter pour regagner des titres. Alors, je dis pas que je savais que j'allais le faire, mais c'est mon objectif. Je me suis jamais dit, j'y arriverai pas, c'est pas possible. J'ai travaillé sur le même. En fait, j'avais. Tu parlais de recette tout à l'heure. Je savais pas si c'était vrai, si c'est vraiment une recette, mais disons que j'avais le mode d'emploi qui m'avait réussi la première fois. Je me dis bon bah je continue à travailler comme je l'ai fait sur mon équipe et advienne que pourra.
Oui, t'as réappliqué. Maintenant, tu savais comment le jeu tournait. T'avais l'expérience.
Ouais, j'avais plus d'expérience en plus et du coup. Du coup, oui, je me sentais capable de le refaire. Je me sentais capable. Et une autre petite fierté du jeu, c'est que je suis redescendu de Pro A la première fois en jouant un petit peu la draft, chose que je fais assez rarement parce que on n'est pas toujours bien placé pour aller choper les draftés. Mais donc là, quand je redescends de Pro A, je joue la draft et je prends 3 draftés et mon objectif c'était de les monter pour de les former pour remonter en Pro A et gagner peut-être un titre avec eux. Mon objectif réel c'était vraiment de les former pour remonter avec eux. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis assez content. J'ai même réussi à gagner finalement mon premier titre avec ces trois draftés de ma première, de mon premier passage en Pro A. Ils sont Olivier Massa, Vincent Couzon et Damien Taon.
Ouais, on va reparler des joueurs après, mais Couzon et Taon, ils font déjà partie de ton top 10 du nombre de du record de matchs en carrière, donc ça montre l'importance qu'ils ont eu mine de rien, et ce sont les visages, on va dire, de ta remontée, ta renaissance dans le jeu. Alors du coup, t'as passé 6 saisons en 3-12. Après, les choses elles sont claires, en D2, t'es prêt quoi, parce qu'il te faut pas bien longtemps, tu perds une demi-finale de PO en 45, et puis là, bim, en 46, tu refais un huitième de finale de Coupe de France, et surtout, t'es couronné champion de 2-3. Est-ce que ce deuxième titre de D2, il a une saveur particulière?
Ouais, c'est tout. Bah, tous les titres ont une saveur particulière. Hein. C'est vrai quand on est dans la saison où on espère monter, gagner le titre, il y a toujours une intensité de la saison qui est plus importante parce que l'objectif est clair et c'est toujours plaisant de réussir les objectifs qu'on se donne hein, de toute façon. Donc oui c'est une saveur particulière. Par contre je me rappelle plus mon adversaire en finale.
C'était Debotim, quelqu'un qui ne tardera pas par la suite à monter lui aussi en Pro A d'ailleurs.
C'est ça.
Cette saison-là, tu as fini premier de ta conf évidemment, et dans l'autre conf, c'est le général qui avait fini premier, mais il avait été battu par Bebo en finale de conf en fait.
Oui, il y avait le général aussi qui était là et qui est là depuis un bout de temps aussi dans cette ligue et qui a toujours une équipe compétitive. Et à chaque fois, il lui manque pas grand-chose. Il y a Tenaka aussi qui me faisait peur parce que c'est.
Tu connaissais l'ancien parcours de Tenaka à ce moment-là?
Évidemment. Quand on joue à bébé qui ne connaît pas le parcours de Tenaka, c'est un des clubs mythiques du jeu, hein. Un des plus beaux palmarès.
En effet. Tu peux dire que tu auras affronté le grand Togola en plus.
Oui. D'ailleurs, je me suis un petit peu intéressé à lui parce qu'il l'a mis sur la liste des transferts cette saison. Je suis un petit peu intéressé à lui, mais il est parti trop cher.
Pour les gens qui nous écouteraient, Togola, c'est vraiment, on peut dire, c'est une star de D2 qui est titulaire au Sénégal en sélection nationale.
Ouais, un énorme joueur qui aurait largement sa place dans n'importe quelle équipe de Première Ligue. C'est vraiment un très fort joueur. Et j'ai vu le profil de son Turc, là. C'est un Turc, Ulkan, ou je sais pas comment il s'appelait. Je sais pas si tu vois de qui je parle, ce joueur-là.
Ouais, je crois que c'est Ulkan. Je crois qu'il s'appelle Ulkan.
Un intérieur turc à 220 000 de salaire, j'ai vu les carats, 151 de total carat, mais il est juste énorme son joueur, il était énorme. D'ailleurs Tanaka, je pense que c'est par choix hein, qu'il choisit de ne pas remonter en Pro A parce qu'il est sûr de la formation, je pense.
C'est un manager qui aime beaucoup la formation en effet.
C'est ça, voilà. Il a bien profité du début de bébé pour se gaver en titre, alors ça a calmé un peu sa soif de titre, je pense. Et maintenant, il est beaucoup sur la formation. Peut-être qu'un jour, il se redécidera à venir rejouer les titres de champion de France et la coupe. Donc quand je tombe dans sa ligue, forcément, je me demande quelles sont ses intentions, parce que je sais que ça va être un adversaire assez difficile, et puis finalement comme il joue pas vraiment la montée, ça va, je m'en tire bien quoi.
Ouais.
Je mesure assez vite que mon équipe est très compétitive en remontant dans cette Ligue 2, parce que mon premier match, je joue contre Team Partry, qui est une équipe qui était en Pro A encore la saison dernière ou il y a deux saisons. Mon premier match, je joue contre Team Partry et je perds de 2 points. Ensuite, je vais voir ce qu'ils ont fait la saison dernière et je me rends compte qu'il avait perdu en finale de peu. Donc, avec la même équipe, donc je me dis, OK, L'équipe est déjà compétitive maintenant. J'ai recruté un petit joueur en plus pour upgrader mon niveau. Je savais que j'étais pas loin et que j'étais prêt à remonter, en fait.
Ouais, ça t'a donné une bonne indication dès le départ, en effet.
C'est ça.
Et est-ce que tu es le genre de manager qui aime garder un œil sur les anciennes divisions où il a joué? Est-ce
Alors,
que, par exemple, la 2-3, tu as suivi un petit peu la confrontation entre Matt Style, c'est-à-dire le manager Madness, et puis le général?
Oui, en fait, plus particulièrement donc par rapport à la Ligue 2.3, parce qu'il y a le général qui est encore dedans et qui essaye de monter, donc on en parle régulièrement. Et donc oui, je suis amené à suivre cette ligue-là en particulier pour voir ce qui s'y passe. Après, sur mes anciennes ligues, je l'ai fait ponctuellement de temps en temps pour aller voir comment ça se passe, etc. J'ai mis de temps en temps des petits messages sur le forum. Plus les années passent avec les ligues où t'es passé, plus moins il y a de managers que tu connais encore et moins tu le fais. Et je le faisais sans être très assidu sur le suivi, c'était plus pour regarder un petit peu qui était encore là, comment ça se passait. Notamment ECL, je vais finir par dire son...
ESCL, ouais.
ESCL, voilà, pardon, excuse-moi, ESCL, ETN, donc... Capello 13, notamment parce que on s'était un peu tiré la bourre donc en Ligue 3 et c'était plutôt sympa. Du coup, j'ai suivi un petit peu sa longue traversée de la Ligue 3.14 en me disant putain, il est encore là, c'est dur. Je l'ai vu en finale des fois. C'était assez rigolo.
Du coup, on arrive à, on va dire, la dernière section de ta carrière, c'est-à-dire celle en cours, c'est-à-dire celle où tu te retrouves à nouveau en Pro A. Ça fait maintenant 4 saisons que tu es stabilisé en Pro A. La première saison en 47 où tu es remonté, bon, tu passes par les relégations pour changer,
ouais.
Mais tu t'en sors. Ensuite, ensuite, la saison 48, bon, tu fais un joli parcours en coupe puisque tu refais un huitième de finale et tu échoues en finale des playoffs en saison 48. Forcément, c'est pas le meilleur des souvenirs.
Non, saison 49.
Du coup, tu joues, tu fais une très belle saison régulière. Tu atteins le résultat de 19 victoires pour 3 défaites seulement. Et de très loin, la meilleure différence de points de toute la Pro A.
Par rapport à cette différence de points, c'est que quand tu as une équipe très compétitive et que tu as des équipes qui jouent la coupe, bon, ils vont tendance à te lâcher en priorité, sachant que ça va être très dur de gagner contre toi. Enfin, très dur, ça va être dur de gagner contre toi sans dépenser dans tout et tout. Du coup, tu t'engranges des points des fois plus facilement parce que tu vas avoir des victoires de 60, 70 points alors que normalement, tu aurais gagné d'une dizaine, quoi.
Ouais. Et puis voilà, du coup, tu te retrouves en play-off. Tu joues Fulek, c'est-à-dire l'équipe Muriel-Rignier, en premier tour, bon, sans problème pour toi. Surtout que lui-même, il était un peu occupé à autre chose cette saison-là.
Et puis, il avait un blessé aussi. Il avait un blessé et j'ai fait une erreur où je le joue en normal parce qu'il me faisait peur quand même. Disons que j'avais perdu chez lui où il m'avait mis une branlée totale. J'avais pas vu le jour sur ce match-là. J'avais pas bien compris cette défaite. Je me suis dit, il est très fort. Il faut que je fasse attention à cet adversaire. Et du coup, quand je le joue au premier tour, malgré sa blessure, je sais que j'ai un shot pour le titre. Hein. À ce moment-là, je pars avec dans les chaussures du favori et ça met un peu la pression. Et je voulais pas me ramasser au premier tour comme un idiot. Et
ouais,
c'était une erreur. J'aurais dû jouer un tranquille, je pense.
Ouais, après, bon, ça fait un écart de plus 22, donc on sait pas comment ça se serait passé si t'avais pas fait ça non plus, mais t'avais quand même la place, je pense, en effet, avec le recul.
Personnellement, tel que je vois le jeu, en fait, à plus 22, pour moi, c'est clairement une erreur. Je pense que un normal contre tranquille, bien sûr, c'est pondéré par l'enthousiasme des deux équipes, mais un normal contre tranquille, en jouant en normal, tu vas gagner, je sais pas, 6, 8 points ou 10, quelque chose comme ça, grosso modo. En fait, ce que je veux dire, c'est que deux équipes de niveau totalement égal qui jouent sur terrain neutre, celle qui va jouer en normal et celle qui va jouer en tranquille, telle que je vois les choses, hein, mais c'est juste, comment dire, ma vision du jeu au travers de mon expérience. L'équipe qui va jouer en normal va gagner d'une dizaine de points, on va dire 7-8, peut-être quelque chose comme ça. Donc à plus 22, pour moi, c'est clairement une erreur.
Ouais. Ouais. Donc du coup, après, bon, tu l'emportes, tu arrives en finale de conf. Cette fois, c'est Team Petri. Team Petri, alors face à Team Petri, tu fais pas le même choix. Lui, il va te jouer en POS, en playoff de la saison. Mais il te sort un base offense. Est-ce que ça te surprend?
Ouais, ça m'a surpris. Mais je pense qu'il sort un base offense parce que il avait peu d'espoir de remporter le match, je pense. Et notamment parce que j'ai aussi la chance qu'il ait un blessé, lui aussi, il me semble. Je dis pas de bêtises. Je dis une bêtise. Il a eu un blessé au tour précédent, mais un blessé qui est revenu. Donc, je me rappelle que ce match-là, oui, j'hésite longtemps à le jouer en normal ou en tranquille aussi. Et finalement, je me résous à le jouer en tranquille parce que on va pas faire deux fois la même erreur et qu'à un moment donné, il faut aussi savoir engranger l'enthousiasme.
Ouais, voilà.
Que c'était chez moi. J'étais favori sur le papier, il fallait le faire, quoi.
Et du coup, nous voilà au moment tant attendu, après presque 10 ans cette fois-ci, mais pas encore. Presque 10 ans de jeu, tu arrives enfin en finale de Pro A.
Ouais.
C'est toi qui as l'avantage terrain, c'est toi qui as le bilan de la saison régulière, et c'est en face de toi, il y a Manu.
Ouais.
Comment ça se passe?
Il faut préciser que Manu, en plus, a un gros blessé.
Ouais.
Et il a un gros blessé dans son effectif, un intérieur à plus de 104 salaires, un titulaire. Il reste avec une très bonne équipe malgré sa blessure, mais oui, effectivement, je me sens très favori à ce moment-là. Je ne crie pas sur le forum parce que tout peut se passer, puis j'ai bien fait de pas le crier parce que je me suis ramassé comme une merde. Je me suis pas ramassé. C'est que Valentin Thiem m'a très bien fait. Il m'a fait déjouer sur le dernier match. Il a très bien joué le coup et je le félicite encore, même si je n'en veux personnellement. Non, je plaisante. Ouais.
Donc pour rappel, le premier match, tu joues en tout supérieur. Tu fais un plus 42. Ouais. Tu as sur les choses chez toi. Ensuite, le deuxième match, c'est chez lui. Ça se joue plus de 2 points. C'est-à-dire qu'à 2 points près. Et en plus, c'était un match particulier parce qu'on n'avait pas les box scores. Si tu te souviens, il y avait un bug.
On ne les a toujours pas. Hein.
Ouais, toujours pas, en effet.
On les a toujours pas.
C'est 0-0, mais si on va sur la box score, mais bon, apparemment, le moteur de jeu a calculé que ça aurait fait 100-301.
Ouais, moi, je ne sais pas si on va le mettre dans l'interview parce que je n'ai pas envie de minimiser la... Après, tu choisiras, tu verras, hein, tu pourras le garder ou pas. C'est juste... Je ne veux pas minimiser du tout la victoire de Valentin Thiem, mais j'ai un peu des gros regrets par rapport à ça, ce bug. Je ne sais pas si le match s'est déroulé normalement, en fait. Moi, ma stratégie à ce moment-là, quand je passe le premier match, je me dis... Je suis capable de gagner chez lui avec son blessé dans les circonstances actuelles. Il faut savoir qu'en saison régulière, moi, je l'avais battu de 12 points chez moi alors qu'on s'était joué tous les deux. Donc, je me disais, j'ai à peu près en tout égal. Sur le papier, je suis légèrement supérieur à son équipe. En tout cas, je suis capable de le battre chez moi. Voilà. Et ma réflexion, en fait, pourquoi est-ce que je joue ce match-là en normal? Je me dis, si je joue en normal et qu'il me joue en tranquille, je pense que je vais le gagner. Je vais gagner en 2 matchs. Si je joue en normal et que lui joue en normal, je vais peut-être pas gagner ce match-là, mais on aura dépensé la même somme dans tous les deux. Et sur le troisième match à domicile, je vais pouvoir faire la différence malgré tout. Ce qui me titille encore un petit peu aujourd'hui, c'est quand je vois comment s'est passé ce match-là où je perds de 2 points au buzzer, etc., sur un match avec un gros score, etc., sans avoir la box score après le bug, sachant que tous les deux, il nous met base offense, je me demande si le jeu nous a pas traités comme deux bots, en fait, tout simplement, et qu'il a pas fait run l'algorithme comme si on était deux bots. Mais je suis pas sûr du tout de ça. Et puis, ça se trouve, je me gourre complètement. Et en fait, je t'en parle parce qu'on discute, tu vois, mais j'ai pas forcément envie de mettre ça en avant. Hein. J'ai pas voulu rager sur le forum et tout. Je voulais pas du tout minimiser la victoire de Valentin Thiem et puis gâcher un peu sa joie. Hein. Mais c'est vrai que je nourris un petit peu des regrets par rapport à ça. Et puis ce dernier match qui a été fou, il ne peut pas plus mal se passer pour moi qu'il ne s'est passé avec un joueur qui sort pour 6 fautes très très rapidement. Voilà.
De toute façon, enfin, de mon point de vue, moi je trouve que c'était très bien justement que tu te sois retenu à l'époque et que tu n'en aies pas rajouté parce que en fait personne ne peut savoir ce qui serait passé.
Exactement,
après,
en plus.
Après, je pense quand même que c'est normal pour toi que ce soit dur, dans le sens où comment tu veux faire ton deuil si tu peux même pas faire de débriefing. C'est compliqué.
Ouais, c'est ça. C'est
donc
compliqué.
À partir de là, c'est normal. Et c'est vrai que bon, c'était quand même ta meilleure occasion au bout de 10 ans de jeu. Donc moi, je comprends tout à fait que ce soit pas facile, à prendre en compte et que tu te dises que ton équipe, elle le méritait. Et moi, je pense que vos deux équipes le méritaient en effet.
Ouais,
Après,
c'est ça.
Ça s'est passé comme ça s'est passé, quoi, en effet. Mais bon, après, on va dire que la déception, elle n'aura pas duré aussi longtemps que ça parce que ton titre, tu l'as obtenu. C'est la saison d'après. Donc,
C'est
la
ça.
saison 49, c'est-à-dire, y a une saison au moment où on parle. Tu as gagné la Coupe de France. Donc, bravo à toi.
Merci, merci beaucoup. C'est une grande fierté.
Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce parcours? Alors, on va faire peut-être un petit peu dans l'ordre. On va
Ouais.
parler ensemble des 3 derniers matchs. Mais est-ce que tu te souviens un peu des 9 premiers tours à peu près?
Mais oui, je me rappelle bien. Bah, en fait, cette saison-là, saison 49, après ma finale perdue, j'ai toujours une équipe qui est compétitive. Mon objectif, c'est a priori de rejouer un titre. J'hésite un peu à jouer la coupe ou le championnat, mais a priori je voulais plus rejouer le championnat. Et le hasard des choses a fait que j'ai eu 2 blessés les 2 premiers matchs, mon pivot titulaire et ensuite mon AF titulaire qui prennent tous les deux 2 semaines au bout des 2 premières journées. Donc forcément pour aller jouer le titre dans ces conditions-là, c'est un petit peu compliqué parce que je sais que je vais aller devoir le chercher sans l'avantage du terrain. Donc naturellement, je switch sur la coupe en me disant bah voilà go full coupe et puis le championnat on verra ce que tu peux faire mais ça sera le secondaire quoi. Et donc les premiers tours de bot, on va pas en parler puisque c'est des tours de bot, ça a peu de sens. Je tombe sur quelques Ligue 3 sur les premiers tours, je tombe assez vite contre Phoenix 23 qui est toujours une équipe de Pro A où je le joue à l'extérieur assez rapidement et je remporte le match en allant gagnant chez lui, donc je suis assez content. On est tous les deux à jouer ce match-là parce qu'on veut tous les deux aller en coupe. Donc le parcours a pas été si simple que ça. L'équipe suivante que je rencontre, c'est Gat Pact, qui est une équipe qui joue aujourd'hui en Ligue 2.4. Donc jamais trop évident de jouer des Ligue 2 hein, même quand t'es pro A. Tu sais jamais s'ils veulent essayer de te couper la tête ou s'ils abandonnent le tour. Et par contre, je le joue chez moi, donc ça m'assure une victoire relativement tranquille, sachant que j'ai de quoi aligner une équipe tout à fait correcte à ce moment-là, parce que c'est au moment du All-Star Game, et j'avais lâché le match de championnat avant pour pouvoir. Non, j'ai pas complètement lâché le match de championnat. En fait, j'essaye souvent de faire des équipes aussi un peu mixtes pour essayer de gagner le grand nombre de matchs possible. Quand je vois que j'ai la possibilité de gagner le championnat et la coupe en même temps sur la semaine, je le fais en mettant des équipes, on va dire à 80% ou 60% de titulaires plus 20% de remplaçants et inversement, un dosage à faire en fait. J'ai souvent des équipes assez profondes qui sont pas resserrées sur 6 joueurs où j'essaye d'avoir des remplaçants de qualité qui me permettent aussi de pouvoir faire ce genre de move.
Donc,
vas-y.
Si on continue après, ouais, sur. Moi, j'ai retenu aussi, quand tu disais parcours pas si simple que ça, c'est ce qui m'a marqué aussi quand j'ai regardé un petit peu les différents tours. J'avance au tour 9, c'est-à-dire les huitièmes de finale.
Ouais.
Mine de rien, en huitièmes de finale, tu joues encore une Pro A, quoi.
Ouais,
Donc là,
c'est puis
tu as la chance de, entre parenthèses, qu'il lâche le match, quoi.
contre Baïkal Medved. Bah, en fait, j'ai la chance surtout, je pense, de le jouer à domicile. C'est ça, hein, c'est le tirage qui fait que je le joue à domicile et c'est toujours plus compliqué d'aller gagner à l'extérieur. Surtout qu'encore une fois, mon équipe est quand même compétitive. C'est pas évident de venir gagner chez moi. C'est pas impossible, hein, bien sûr, mais et du coup, bah, il en a profité pour se reconcentrer sur le championnat. Je me rappelle plus exactement quelle était sa situation au championnat à ce moment-là, mais je sais que ça luttait quand même dans la conférence bleue en face. C'était assez serré, donc il en a profité pour se reconcentrer sur le championnat. Sachant que moi j'avais lâché, je jouais Timo Boyce, donc je jouais Timo Boyce chez lui, qui était très fort la saison dernière et qui est toujours très fort, hein, d'ailleurs, mais qui dominait un peu la ligue et qui avait montré sa volonté de gagner le titre. Donc bon, c'était facile pour moi de lâcher ce match-là, hein, parce que c'est pas avec une demi-équipe qu'on va gagner chez Timo Boyce. Donc
Non, c'est sûr.
Pardon?
D'autres ont essayé, en effet. Ouais.
Ouais. Et donc Baïkal Medved, d'ailleurs je vais regarder. Donc c'est Baïkal son nom de manager. Baïkal, je pense qu'il anticipe un peu les choses en fait. Et je pense qu'il a eu raison de le faire parce que je l'aurais pas laissé gagner.
Bah, vu la différence, de toute manière, je crois qu'il pouvait essayer ce qu'il voulait. C'était pas un jour où t'étais prenable, en fait.
Ouais, là j'avais une équipe qui était quand même assez forte. Je montais en puissance, mes blessés étaient revenus. Je faisais en sorte de montrer tous les signes de force possibles pour qu'on me laisse tranquille, quoi.
Et du coup, bon, après la fessée que tu lui mets 133-59, quand même, t'arrives
Ouais,
en quart de
après,
finale,
il me
et
donne le
là,
match aussi.
c'est terrain neutre, et tu joues Paris Magic.
À Paris Magic, c'est l'adversaire qui me faisait le plus peur. Peut-être que j'ai tort parce que les Sarcelles en Fury étaient très forts aussi, mais j'avais l'impression que Paris Magic, qui tankait complètement en Pro A, qui jouait que la coupe, je regardais ses box-scores en coupe et je me rendais compte que c'était sérieux, quoi. C'était sérieux que s'il avait voulu jouer le championnat aussi, il se serait maintenu sans trop de problèmes, je pense. Pour moi, à ce moment-là, je me dis c'est un peu la finale avant l'heure, parce qu'on arrive sur terrain neutre, et à ce moment-là, sur terrain neutre, il n'y a plus le côté je risque de me retrouver à l'extérieur contre une équipe qui va me poser problème. En jouant sur terrain neutre, j'avais l'impression d'être favori face aux équipes qui restaient encore en coupe à ce moment-là, mais Paris Magic faisait un peu peur quand
Ouais.
même. Et donc voilà, match très accroché, je me rappelle, contre Paris Magic, qui se décante dans le dernier quart-temps, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà.
Ouais, t'étais à plus
12-12,
deux dans le dernier.
20-20, 8-20 sur les trois premiers quart-temps, et dans le dernier quart-temps, je prends 10 points d'avance. Il me pâme correctement, donc voilà. C'est toujours le problème, hein, c'est qu'on a beau se sentir favori, en se disant, bon, j'ai un petit avantage d'effectif par rapport à mes adversaires, l'avantage du terrain n'étant plus en question, mais il reste toujours les pames qu'il faut esquiver, qu'il faut tenter ou ne pas tenter, et ce qui rend le jeu plus intéressant encore. D'ailleurs, ça a été une très bonne initiative de Bébé d'intégrer les pames dans le jeu, je pense.
Ouais, ça offre un peu plus de richesse, ouais.
C'est ça. Et puis une équipe qui est favorite juste parce qu'il a un peu un meilleur effectif que l'autre peut quand même trembler. Parce que même si je me sentais favori, je me sentais pas au-dessus, la tête et les épaules. C'était quand même. Et puis d'ailleurs, la finale le prouve. En demi-finale, je rencontre Porc, donc Pig,
Attends,
qui est bien connu, je crois.
excuse-moi, je
Oui.
reviens juste une seconde sur un petit point par rapport au quart de finale.
T'en prie, oui.
Moi, ce qui m'a un peu marqué quand j'ai vu la box score, c'est le fait que bah, les deux équipes marquent pas et enfin ont pas un pourcentage de réussite énorme. Et donc
Ah ouais,
j'ai voulu regarder un petit peu en détail. J'ai regardé évidemment surtout Paris Magic qui fait aux 3 points un seul, qui rentre un seul 3 points sur 19. Je me dis, c'est bizarre. Du coup, je vais aller regarder les notes de confrontation. Et justement, eh bien, c'est son AS qui pêche énormément son AS. Bon, bah, c'est que 3-17 au total et 0-5 pour les 3 points. Et justement, en fait, si on regarde actuellement son AS, il est en vente. Tu veux savoir avec quoi il jouait?
Bah oui, ça m'intéresse, ouais.
C'est un meneur, en fait, qui a simplement SI prolifique, alors qu'on est en quart de finale, qu'il joue Look Inside. Et il a, par contre, un dribble phénoménal et un JS prodigieux.
Ouais,
Donc, en fait,
et
son AS, c'était un meneur. Il a mis un meneur en tant qu'AS sur un Look Inside. Et à mon avis, c'est une petite partie de l'explication de pourquoi, en termes de pourcentage au shoot, ça allait pas, quoi.
c'est possible, c'est possible. Après, tu vois, c'est un meneur qui a défense extérieure qui a légendaire
Ouais.
et en DI sensationnel. Et ça s'est senti sur le match, c'était un match de défense, quoi. C'était un match
Exactement, oui.
d'équipe qui verrouillait. Et donc, je pense qu'il a des joueurs qui ont pas mal des bonnes caracs de défensives. Et effectivement, oui, effectivement, le prolifique en SI, pour un AS, c'est pas énorme. Pas énorme à ce niveau-là, c'est vrai.
Du coup, je te
C'est
laisse
vrai.
répondre sur la demi-finale.
Ouais, non, bah la demi-finale c'était contre Port Augusto. Il me semble que j'ai déjà joué contre lui à un moment donné en Ligue 3 où on a dû être dans la même équipe. Je crois que c'est un gros troller. Et si c'est celui à qui je pense, moi je trouvais rigolo mais je connais pas tous ses dérapages et tous ses déboires et je sais qu'il Disons que je le prenais vraiment au deuxième degré.
Alors là, c'est vrai que tu pouvais pas sur la demi-finale le prendre au deuxième degré parce que
Non, pas
il
du
avait
tout.
quand
Non,
même un.
sur le match,
Il avait.
non, je parle
Ouais.
de ces dérapages sur le forum. Il aime bien chambrer et troller beaucoup de façon agressive. Mais voilà, je le prends pas à la légère. Mais pour moi, c'est un match que je vais gagner, quoi. Vais gagner
Ouais.
parce que bah, c'est une Ligue 2 qui reste avec son effectif de Ligue 2 et qui va avoir quand même beaucoup de mal à me battre sur terrain neutre alors que moi je joue le match à fond. Enfin,
Alors, tu joues
je
le
joue
match à
en...
fond pour en enthousiasme.
Oui, je le joue en tranquille parce que je sais qu'il faut que j'engrange l'enthousiasme à ce moment-là. Je suis trop au-dessus de son effectif pour vraiment avoir peur sur ce
Ouais,
match-là.
t'es au-dessus parce qu'évidemment, tu alignes ton équipe A.
Exactement, c'est ça. C'est que je sais que la coupe, je la joue, donc ça va être toujours mon équipe A qui va faire le taf. Et j'ai pas de blessés. J'engrange de l'enthousiasme depuis un moment, donc je suis vraiment en phase où je suis assez bon. Après, je joue en isolation intérieure justement pour éviter la petite PAM qui peut me faire mal, quoi.
Et la PAM qui le sort d'ailleurs, mais donc qui rate en
Ouais,
effet. T'as pas
voilà,
une
c'est
petite
ça.
frayeur quand même à la fin du premier carton quand tu vois qu'il est à plus 6?
Si, je regarde ce premier carton et je me dis non, mais c'est fait chier ce jeu de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Si, oui, j'ai peur, je rage un peu derrière mon ordi et les shoots qui rentrent pas et ces shoots qui rentrent, etc. Et puis, je connais quand même un peu le jeu. Je sais que l'algorithme aime bien mettre des scénarios parfois où on prend une grosse avance au départ, ensuite l'équipe au second quart-temps refait complètement cette avance et inversement. Je me fais pas encore complètement de bide, je me dis que ça va retourner en ma faveur. Et heureusement que ça retourne au second quart-temps parce que si on arrive à la mi-temps à égalité, j'aurais été encore très inquiet, ouais, c'est sûr.
Ouais, je crois que c'était Timo qui, ou Jorus, j'ai oublié, qui dans l'émission BBN Audio numéro 3 avait pour hypothèse le fait que peut-être que le moteur du jeu, en fait, calculait d'abord le résultat final et créait ensuite le scénario aléatoirement en fonction de ce résultat. Et c'est vrai que
Alors c'est
c'est
une
plausible.
hypothèse que j'ai déjà entendue plusieurs fois, c'est possible. Je serais incapable de l'infirmer ou de le confirmer. En tout cas, ce que j'ai déjà remarqué plein de fois, c'est que il y a des signes de victoire qui se font sentir et il y a aussi des fois des scénarios qui sont complètement fous. Mais oui, c'est vrai que des fois, on est surpris malgré tout. Même si on connaît bien le jeu, qu'on sait comment ça se passe généralement dans les matchs par rapport. Je regarde beaucoup les écarts, carton après carton, en fait. C'est des bons indicateurs, je trouve, personnellement. Et des fois, on reste surpris, c'est sûr. Hein.
Alors du coup, on arrive à la finale. C'est les Sarcelles en Furie. C'est Aoka, c'est un connaisseur de la coupe.
Ouais.
Dans quel état d'esprit t'es et raconte-moi comment t'as vécu le match.
Dans l'état d'esprit d'un... Comme je te l'ai dit, hein, sans entour, enfin, je dis honnêtement,
T'avais de l'ambition.
je me sentais, pardon?
T'avais de l'ambition, quoi.
Ouais, j'avais de l'ambition. Je me sens un peu favori face à mes adversaires. J'ai quand même un peu peur de son équipe parce que je sais qu'il a une très bonne équipe et qu'il joue sur Bouylla qui est un diable. Et qui est parfois, souvent intenable en fait, hein, qui est très fort joueur. Donc je me doute en fait qu'il va jouer patient sur Boulila parce qu'il l'a fait sur ses gros matchs précédemment. Et je sens que c'est sa tactique de prédilection sur les gros matchs. Voilà, j'ose pas Pam parce que comme je me sens un peu favori, je me dis que ça serait probablement une erreur. Hein. C'est tel que je vois les choses. Pam, ça vaut le coup de prendre le risque quand ça va faire la différence. Si on est plus ou moins favori dans un match, ça sert à rien de prendre ce risque-là. Il vaut mieux essayer de déjouer les Pam adverses plutôt que de prendre le risque de Pam. Après, je sais pas si j'ai raison, mais et du coup, je décide de ne pas Pam et je joue quand même Look Inside, qui est la stratégie que en règle générale, que les managers privilégient en prenant le risque de me faire Pam. Donc, il me Pam intérieur et il me donne un match hyper accroché où j'ai les
Tu
mains
sais
moites jusqu'à la fin du match, quoi.
ouais, et tu sais
Dans le
d'ailleurs,
quatrième.
tu sais d'ailleurs assez rapidement que il vient avec ça et quasiment que avec ça. Il n'y a pas un joueur en trop dans son roster, quoi.
Ouais. Il a resserré sur ses meilleurs joueurs. C'est ce que j'ai fait aussi, même si ça se ressent moins chez moi parce que j'ai des remplaçants qui sont quand même de qualité. Et du coup, à part Vincent Couzon qui est mon dixième homme, on va dire, et qui finit par jouer finalement dans les rotations parce que je l'avais mis en réserviste. Mais oui, je sais que je vais devoir attaquer un bloc de joueurs très forts qui ne vont pas beaucoup changer. Et je sais que enfin, c'est pas je sais, je pressens qu'il a l'endurance nécessaire pour ça puisque c'est une tactique qu'il a déjà utilisée, quoi.
Est-ce que tactiquement, tu avais analysé un peu son patient auparavant? On en avait parlé dans l'émission BBN Audio numéro 3 aussi. C'est une tactique qu'il a sortie fréquemment au cours de la saison régulière en Pro A. Est-ce que tu
Ouais.
t'y étais préparé?
Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ouais, je m'attendais à ce qu'il joue comme ça sur Boulila. Et c'est
Ouais,
d'ailleurs,
malheureusement,
j'ai fait une très très légère adaptation tactique par rapport à mon équipe habituelle, qui est de décaler mon AF en pivot parce qu'il a une meilleure DE pour que Boulila tombe sur un intérieur avec une bonne DE.
et quand on voit les
Et
modes de confrontation, bah, en effet, ça a pas mal marché de ton côté, peut-être pour essayer de faire fauter Boulila plus que ce qu'il n'a fait, alors qu'il sort quand même bah, 43 points, quoi. Donc,
ah,
en
fa
imaginant que
face
t'aies
à
pas fait ça aurait été pire.
ouais, c'est ça. En fait, quand tu sais que tu tombes sur un joueur comme Boulila et que tout va jouer sur lui en patient, que tu vas pas l'éteindre, tu l'éteindras jamais. Au mieux, tu vas le limiter. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, le limiter au mieux pour que mes cinq joueurs mettent plus de points que Boulila tout seul. Enfin, c'est un peu réducteur de dire ça parce qu'il avait d'autres très bons joueurs, mais quand tu joues en passion avec en patient avec un XT à l'intérieur, c'est qu'il aura beaucoup beaucoup de tickets de shoot.
Est-ce
Et
que justement il n'y avait pas aussi un... Alors je sais pas si c'était réfléchi, mais est-ce que tu penses que ça s'est pas mal joué au rebond aussi? Est-ce que tu fais plus 10 au rebond par rapport à lui?
ouais, c'est possible. Après, j'ai une vision particulière du rebond où je trouve que le rebond coûte très cher en salaire. Et j'ai J'ai souvent remarqué qu'on pouvait se faire dominer, légèrement dominer au rebond et quand même gagner les matchs. Le rebond est parfois abandonné. Je me rappelle de Slam Dunk. Gitan, c'était quoi son équipe ? Slam Nation. Je sais pas si tu te rappelles, c'est un gros club qui a gagné beaucoup de titres.
Ouais.
Parfois sans rebond. Il était avec moi en pro A lors de mon premier passage en pro A. Et il réduisait le rebond. J'avais commencé déjà à le faire. Donc je sais pas si réellement le rebond était la clé du match, parce que moi, ma vision du jeu fait que le rebond est peut-être, par rapport à la réalité d'un match de basket, dans le jeu, peut-être un petit peu sous-valorisé, en fait, par rapport à l'algorithme. C'est ma vision des choses, je dis pas que j'ai raison, hein. C'est comme ça que je vois les choses.
Ok.
Et donc l'équipe, attends, je vérifie pour pas avoir écorché son nom. Oui, c'est bien Slam Nation, très très forte équipe, très surprenante aussi. D'ailleurs, quand elle était avec moi en pro A, je me rappelle qu'elle était extrêmement compétitive avec beaucoup de joueurs, avec un effectif assez, avec des remplaçants assez compétitifs. Et je me rappelle qu'il faisait souvent il avait souvent des joueurs qui sortaient pour 6 fautes. Et il finissait par gagner les matchs, c'était assez impressionnant, je trouvais que c'était un très très bon très très bon manager à Slam Nation. Il a gagné des titres rapidement, d'ailleurs, je dis pas de bêtises, il a été botifié aujourd'hui. RIP.
Ouais, on peut dire que ce match, tu l'as gagné sur le carton 4 aussi, donc comme tu disais tout à l'heure, les mamans pendant tout le match, mais ouais, ça devait être l'explosion de joie pendant le carton 4, quand tu vois que t'es intouchable, quoi, quasiment.
Ouais, c'est... Mais j'ai peur, hein, pendant les trois cartons, je me vois perdre ce titre et je me vois me pendre à la fin du match. J'exagère, mais...
C'est une inversion de tendance, parce que si je calcule bien, t'étais peut-être à moins 2 en fait avant le carton 4.
C'est ça, j'étais à moins 2 précisément. En fait, on est à égalité à la mi-temps et dans le troisième carton, il reprend plus 2 d'avance. Et en fait, je prie à ce moment-là pour que ce soit le scénario où je fais la différence dans le dernier carton. C'est un scénario que j'ai déjà vu aussi dans BB plusieurs fois, mais bon. Après, il y a peut-être plus d'aléatoires que je l'imagine, mais c'est un match qui a été dur, ouais, qui a été super dur, et ce dernier carton, il est libérateur, quoi, complètement libérateur pour moi. Je souffle à ce moment.
Bon, bah maintenant le titre est à toi, encore bravo. Et tu sais que t'as environ 800 joueurs qui veulent te le piquer, quoi.
Ouais, c'est ça. ouais, carrément. Est-ce que je défends ma coupe ou est-ce que je vais essayer de chercher mon titre de champion de France qui m'a échappé ? Je sais pas. En tout cas, clairement, si vous venez chez moi, n'imaginez pas gagner facilement. Il serait même judicieux pour vous de lâcher le match.
Ça, c'est dit. Ouais. Évidemment, bon, alors on va terminer cet entretien sur ton avenir, quoi. Tu viens de parler justement de savoir des réflexions en cours sur quoi aller chercher. Mais en tout cas, tu cherches le titre, ça, on a bien entendu.
Oui, clairement.
T'as gagné ton match de relégation, à ce niveau-là, c'est fait. Donc, on est en saison 50 maintenant, et puis t'as gagné ton premier match. Là, en ce moment, c'est la fin du deuxième match. Et puis, forcément, il faut qu'on parle des buzzer beater best.
Ouais.
Un buzzer beater best particulier. Par rapport au match, à un certain match que tu vas jouer, puisque tu rencontres encore Timo Boyce.
Timo, ça fait chier. Je pense que ça le fait chier aussi. Non pas que je suis pas content de le jouer, parce que c'est un manager qui est super sympa et tout, et mais déjà ça me fait chier parce qu'il est fort. Deuxièmement, ça me fait un peu chier parce que c'est dommage que les deux clubs français se tirent un peu dans les pattes sur les BBB. J'aurais préféré le rencontrer en finale, je pense que lui aussi. Et j'ai pas complètement scouté toutes mes équipes en face. Ça va être un premier test. le match prochain. J'ai regardé vite fait quand même l'équipe que je joue au match prochain. J'ai l'impression que j'ai peut-être la possibilité de gagner. Je me sens pas inférieur à son équipe. On verra. Peut-être que je me trompe. Hein, on verra bien. Oui, Buzzer Beater Best, bah, super content de jouer cette compétition que je vais découvrir un peu à peu. Mon objectif pour cette saison, bah, ça va être de recruter un petit joueur pour ou deux pour essayer de gagner un petit peu de niveau et laisser partir un ou deux joueurs les plus vieux de mon effectif, tout en gardant ma base actuelle. Pour le championnat de France, oui, c'est un autre titre. J'ai bien envie d'aller faire chier Timo Boyce si j'en ai la possibilité en finale. Rien n'est fait, hein, la saison débute juste. Ça se trouve, je serai même pas en playoff, j'en sais rien. Timo Boyce me paraît encore très sérieux, un candidat très sérieux. D'ailleurs, il l'a annoncé, il veut construire une petite dynastie. Je l'ai bien entendu dans le dernier BN audio. J'ai bien envie de contrecarrer ses plans et de venir l'emmerder le plus possible. Moi aussi, j'ai envie de titre, en fait. J'ai envie de construire un palmarès. Me planterai peut-être encore comme il y a deux saisons face à Valentin Thiem. Fait partie du jeu et puis je pense que c'est intéressant d'avoir des objectifs quitte à les rater, hein. Mais voilà, comme mon équipe est encore bien compétitive, hein, cette saison, même si elle a pas évolué par rapport à la saison dernière, il va falloir que je commence à la faire évoluer un petit peu cette saison. Je vais essayer de faire ça en douceur. On va voir comment ça se danse. Mais oui, j'ai pas dit mon dernier mot, clairement.
Ok, bah écoute. En effet, c'est vrai que côté effectif, tu as, comme d'autres managers, la question du rajeunissement de l'équipe qui va jouer. Et puis, bah, sinon, oui, on a bien entendu en tout cas tes appels. On va s'arrêter là. Moi, je te remercie grandement et chaleureusement pour ce temps que t'as pu me consacrer pour qu'on puisse tout simplement discuter en fait de bébé entre deux joueurs qui connaissent le jeu depuis 10 ans en fait.
Ouais, parce que toi aussi, t'es là depuis un bout de temps. Porto Connection, t'étais même avant moi, non?
J'ai commencé en mars 2008.
Ouais.
Et j'avais fait une pause il y a 6 ans, j'avais dû faire une pause de 3-4 ans, et je suis revenu il y a 2 ans avec une nouvelle équipe.
Parce que t'étais en Pro A, toi, assez rapidement, non?
Assez rapidement, non, il m'a fallu 20 saisons, en fait, j'ai fait un parcours comme toi, c'est-à-dire, un peu différent, parce que je suis jamais redescendu, en fait, avec ma première équipe, mais je suis monté lentement, et en 20 saisons, j'ai joué la Pro A, j'ai dû y rester 2 saisons, je crois, et j'ai joué une fois les playoffs.
D'accord, ok.
Donc voilà, très bon souvenir. Et puis après, l'IRL m'a rattrapé et j'avais décidé de laisser de côté. J'avais pas envie de tanker voilà. J'avais pas vraiment, j'avais vraiment pas envie de jouer comme ça à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui t'a fait revenir au jeu finalement?
Le fait que côté IRL, ça s'est stabilisé, que j'ai pris des habitudes, on va dire des automatismes dans mon boulot qui fait que je peux dégager plus facilement du temps depuis 2 ans. Donc à partir du moment où je peux dégager du temps, moi c'est vrai que j'ai fait un peu le tour de... Enfin, je suis pas mal culture de manière générale et jeux de toutes sortes, que ce soit jeux de société, jeux vidéo ou autre. Ouais. Et bébé, pour moi, ça a toujours une saveur particulière pour l'aspect communautaire. Donc voilà, je me suis dit un jour, c'est l'un de mes jeux préférés et maintenant que j'ai plus de temps, il est temps de recommencer et de savoir si je suis capable de renouveler la montée vers la proie, quoi.
Bah écoute, moi je te le souhaite, hein. Je te souhaite de venir perdre dans ma salle dès que tu remontes en proie.
Okay. Bon, va falloir maintenant que tu y restes en m'attendant, il va peut-être falloir que tu attendes.
C'est vrai, t'as raison.
Ouais, c'est bon.
Non, mais je compte bien m'incruster en Pro A. Après, c'est toujours compliqué, comme tu disais tout à l'heure, par rapport au vieillissement des cadres, etc. Il faut prendre les bons virages et c'est pas toujours évident. J'avais réussi à le faire un petit peu sur mon premier passage en Pro A, où j'étais resté 8 saisons de suite, ce qui était déjà pas mal. J'étais déjà très content de ça. Mais au bout d'un moment, ça a craqué, quoi. Ça a craqué. J'ai pas réussi à faire plus. Donc bon, on verra. Je sais pas si je réussirai à t'attendre 20 saisons. Il va falloir peut-être que tu te dépêches.
Ouais, en effet. Ah tiens, sinon, petite question subsidiaire en dehors de ton équipe.
Oui.
Est-ce que t'as regardé les dernières news BBB? Bébé, je veux dire.
Non, pas spécialement. Tu
Il
fais.
est question du moteur de jeu un tout petit peu, mais il est question aussi de l'appli. Je sais pas si tu as un avis dessus.
Le Welcome to Season 50.
Ouais.
Non, j'ai vu ça il y a quelques jours que c'était sorti et j'ai pas pris le temps de le lire encore.
Ok, bah pour info, donc l'appli smartphone pour bébé, ils espèrent qu'en gros, il y aura plus d'infos dans les tout prochains mois.
D'accord.
Le truc plus important, à mon avis, et je suis pas le seul à l'avoir dit déjà sur Beben Audio, c'est que plus important que l'appli, c'est la question des lives, parce que le live repose sur une technologie qui s'appelle Flash et qui ne sera plus supportée très bientôt.
Ouais.
Et ils viennent d'annoncer qu'ils vont développer une solution de remplacement avant la fin de l'année.
D'accord, bon, ça c'est une
Donc
bonne
ça,
nouvelle.
c'est vraiment la nouvelle importante, je trouve,
Parce
de
que
l'annonce. Et sinon,
oui,
ouais,
pardon.
je t'en
Non,
prie.
j'allais dire oui, effectivement, les lives, c'est primordial. Je les regarde pas
Exactement.
tous. Des fois, je les regarde en rediff en x5, mais j'aime quand même bien regarder mes matchs, notamment les matchs importants. Et les vrais matchs importants, j'aime bien les voir pour de vrai vibrer, parce que même si c'est que des ronds sur des ronds et des croix, ça me fait vibrer, quoi.
Ouais, et puis bon, il y a d'autres jeux comme Football Manager où ça a longtemps été comme ça et pourtant le jeu il était très bon quoi. Et puis sinon je termine sur la troisième info qui est vraiment importante je trouve dans la news, c'est le fait qu'ils vont rééquilibrer les tactiques orientées inté pour qu'elles soient un peu moins fortes.
D'accord, ok, ils vont nerf un peu les tactiques intérieures, d'accord,
Il y aurait du coup plus de contres, plus de
ouais.
balles perdues, plus de turnovers.
Sur une tactique intérieure.
Ouais.
D'accord, ok, bon bah je j'irai lire la news de toute façon pour mais ouais, c'est intéressant de voir ça, ça fait un peu évoluer le jeu, c'est pas
Ouais,
mal.
je dirais que c'est l'une des meilleures news qu'on a eues depuis longtemps, en fait.
Ouais.
Du coup.
Je suis d'accord, c'est un peu le comment dire la critique, voilà, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. La critique qu'on peut faire à bébé, c'est que le jeu évolue peu et il y a certaines choses qui pourraient être faites. Notamment, tu dis que tu adores le jeu pour son côté communautaire. Je suis d'accord, mais heureusement qu'il y a BBF et qu'il y a des gens comme toi qui prennent les devants, parce que le forum de Buzzer Beater, moi à part le forum Pro A et les forums de ligue, mais le forum général, j'y mets pas les pieds parce que je trouve que c'est trop mal fait, quoi.
Ouais,
C'est
non,
trop mal
c'est
fait.
vieux.
De temps en temps, je vais chercher de l'info comme ça, dont j'ai besoin, tu vois, je me pose une question, je vais regarder si je peux pas trouver quelques éléments de réponse. Mais c'est dommage qu'ils essayent pas de. En même temps, je dis c'est dommage qu'ils essayent pas, mais je suis pas à leur place, je sais pas quels sont les impératifs qui les tiennent, mais. Il y a des choses à faire, c'est sûr, sur ce jeu. Il y a plein de choses à faire, je pense.
Bah écoute, on s'arrête là. Encore merci en tout cas. Et puis bah je te laisse le mot de la fin si tu veux dire bah, tout ce que tu veux. T'es libre.
Je sais pas. Je voudrais remercier tous les cadres de mon équipe pour avoir tenu bon pendant toutes ces saisons et finalement me permettre de décrocher ce titre. Hein. Les Lech Krasovski, les Nicolas Désert,
Les Franck Genet aussi.
Les Franck Genet aussi, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on. Non, mais plus sérieusement, non, j'ai pas grand-chose à rajouter à part merci, merci. C'est vraiment un honneur de participer à l'émission et j'espère que il y en aura plein d'autres. Et si, aussi, si je suis prêt à participer aussi à l'émission BN Audio, s'il y a besoin de monde parfois pour ramener leurs fraises, moi ça me plaît, donc n'hésite pas,
Eh
n'hésite
ben
pas.
écoute, rendez-vous est pris. Moi, ce que je te propose, c'est je pense que BBN Audio va prendre ses quartiers d'été un petit peu.
Généralement, on a parlé, ouais.
J'essaie d'organiser quand même peut-être un mini IRL. Bah, s'il y a des gens qui veulent venir, j'habite à Tours, donc s'il y a des gens qui peuvent passer dans le coin, etc. Bah, voilà, pour l'instant, on est 3-4 à se dire pourquoi pas. Donc peut-être qu'on fera
Mais...
une émission spécialité IRL. Et sinon, bah, je t'invite en septembre aussi pour la prochaine vraie émission qui parlera de la saison 50.
Bah ouais, avec plaisir. Ça sera la fin de la saison. Ça sera à ce moment-là que je serai en train de mettre une fessée à Timo Boyce en finale.
Ah, on va savoir. Timo, je pense que Timo sera là en plus dans l'émission, donc ça peut être marrant de vous avoir tous les deux. Et du
Ouais,
coup,
ça peut être.
si ça donne une motivation supplémentaire, écoute, vous pourrez peut-être même commenter le live tous les deux d'une
C'est ça,
finale. Vous joueriez tous les deux, ça pourrait être sympa, quoi.
ouais. Après, je m'avance hein, parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes en Pro A. Je veux pas non plus passer pour une grosse
Ouais, en
tête.
effet, Manu aussi, je pense, il s'est reposé un petit peu la saison passée, à voir comment il gère les U21. Bravo pour son élection, d'ailleurs. Mais peut-être que Manu, il a quelque chose à vous dire aussi.
Oui, puis les Sarcelles en furie,
Les
Muréligné, je pense pas
punaises, etc.
que Golgot, enfin bref, il y a quand même de quoi faire, y a quand même de quoi faire en Pro A. Mais bon, c'est toujours rigolo de chambrer un peu, quoi.
Ok, et bien sûr, merci
Ouais.
d'avoir écouté pour ceux qui auront pris le temps. Et puis, Jack, à très bientôt.
Ouais, merci pour d'avoir écouté. J'espère que je vous ai pas ennuyé, les auditeurs. À bientôt.